Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Revenons sur le budget. Il y a eu beaucoup de critiques hier, de commentaires, et le premier ministre Legault a dit quelque chose. En fait, il y a deux éléments importants. Le premier, il a dit, on est capable de vivre avec ça, puis ça nous permet d'investir en santé et en éducation. Deuxièmement, il a dit, parce qu'on lui reproche d'avoir baissé les impôts, puis de s'être privé d'argent. Réponse, les impôts sont encore trop élevés au Québec. Et là, vous sentez la recette électorale qui est en train de se faire. Dans un troisième mandat, la CAQ envisage de baisser les impôts. Premier élément. Deuxième élément ce matin, et Pierre-Yves, hier dans sa chronique, a abordé ça. Un déficit record, là, on l'a appelé le king du déficit, 11 milliards. Et dans le 11 milliards, vous avez des espèces de dispositions de sortie qui peuvent faire fondre le déficit assez rapidement et montrer que finalement, c'est pas 11, mais c'est peut-être autour plus de 8 milliards, puis vous allez voir qu'on va être capable de faire une certaine récupération. Et Gérald Filion de Radio-Canada a une théorie qui est loin d'être inintéressante. Il dit, est-ce qu'on a créé cette espèce de gros déficit pour se donner le pouvoir de réduire les dépenses aux yeux de l'opinion publique? Parce qu'il y a des efforts à faire. Et quand le ministre dit, je vais passer tous les programmes sous la loupe, que ce soit des mesures fiscales, que ce soit des dépenses gouvernementales, mais c'est clair que, et ça a commencé avec le programme sur les voitures électriques, sur des crédits d'impôt. Alors, dites-vous que Québec va couper. C'est pas une mauvaise chose en soi, là. On a le droit de réduire les dépenses. Quand les dépenses sont inutiles ou ne donnent pas le résultat prévu. Mais voyez un peu comment se positionne, là. Les élections, c'est loin puis proche en même temps. Et on sait que M. Legault veut aller chercher un troisième mandat. Ça va pas bien dans les sondages. Mais là, c'est une stratégie pour réduire finalement les dépenses de l'État. Deuxième dossier ce matin, l'histoire du juge de Lille. 9h, on devrait avoir un peu le résultat des tractations entre la Défense et la Couronne. Il a fait 9 ans de prison. Il a multiplié les recours devant les tribunaux. Il n'a jamais témoigné dans les procès. Le silence complet concernant la mort brutale de sa femme, présentée par lui comme un suicide et par la Couronne comme étant un meurtre. La question est simple. Il plaide coupable à quoi ce matin? Et pourquoi décide-t-il maintenant de plaider coupable? J'ai entendu toutes sortes de théories, je ne suis pas avocat, mais quelle est la voie de passage qu'on a trouvée? Mettons que dans sa tête, il se dit, j'ai fait 9 ans de prison, c'est assez, je suis un vieux monsieur, et je veux retourner finir mes jours à la maison avec ma famille. En passant, sa famille, ses enfants l'ont soutenu tout au cours des procédures. Et là, qu'est-ce que tu as expliqué aux enfants pour dire que finalement, après toutes ces années, tu décides de plaider coupable? Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est quelle sorte de chef d'accusation qui a fait l'objet donc de cette discussion. J'ai entendu, est-ce que c'est une incitation au suicide? Je vais faire attention parce qu'il y a des ordonnances de non-publication. Mais cette femme est morte par balle. Alors, où elle s'est tirée, où il y a quelqu'un qui a tiré. Elle n'est pas morte de façon naturelle. Il n'y a pas un enjeu, on ne sait pas exactement, c'est clair. Et quel a été son rôle et qu'est-ce qu'il va venir nous dire en plaidant coupable? On va pouvoir regarder ça, évidemment, ce matin. Mais c'est un personnage qui est assez épeurant. Tous les commentaires, là, puis je vais le dire en ongles, mais les gens qui parle de ça depuis hier, puis même avant. Quand vous regardez les images dans les corridors des palais de justice, je veux dire, puis surtout, il y a une séquence où il s'avance vers la lentille, là. Pas le regard le plus intéressant en ville, là. C'est un espèce de regard froid, de glace. Pas de sentiment, pas d'émotion, il n'y a pas de vie. Spécial, le monsieur. Alors, donc, c'est ce matin que tout ça. Et je voyais aussi le débat en disant, c'est incroyable, les montants dépensés, c'est allé jusqu'au ministère de la Justice pour qu'on reprenne tout le processus, fait partie du système de défense. Évidemment, c'est quelqu'un qui a les moyens de multiplier les requêtes, de payer les meilleurs avocats. Puis on sait que la justice est inégale. Les ressources sont pas les mêmes pour tout le monde. Dans son cas, il y avait l'argent pour faire ça. Puisqu'on parle de crimes, une augmentation quand même importante du nombre de crimes haineux, 83%, ça a été signalé au pays entre 2019 et 2022. Puis vous comprendrez qu'avec la guerre actuelle entre le Hamas et Israël, l'antisémitisme retrouve sa place, malheureusement, dans beaucoup de manifestations puis dans l'espace public. Et la haine de l'autre qui se manifeste sur des réseaux sociaux aussi, c'est omniprésent. Puis vous voyez que c'est en augmentation. On va parler de la DPJ. Le Journal de Montréal a fait une demande et selon les statistiques fournies par la Sûreté du Québec, les disparitions d'adolescents ont explosé, passant de 696 en 2018 à 2520. C'est quand même majeur. Et 60% des cas de fugue, ce sont des jeunes placés sous la responsabilité de la DPJ. Bon, deux bémols. Le premier, dans trois quarts des cas, ils reviennent après 24 heures, ou ils sont retrouvés après 24 heures. Fait que c'est pas catastrophique. L'autre bémol, est-ce qu'on signale plus de disparitions qu'avant? Est-ce qu'on a le réflexe d'appeler la police plus rapidement? Mais il demeure pas moins qu'on se retrouve avec des jeunes qui sont en difficulté. Ils sont soit dans un centre ou à la maison, là, parce que quand tu te pousses de la DPJ, mais tu peux te pousser de tes parents, puis tu décides de t'en aller. Et ça fait quand même beaucoup de jeunes, et ça nous ramène aux conditions qu'on retrouve dans les centres. Puis là, il y a un jeune qui témoigne ce matin qui dit que ça ressemble à des prisons pour les mineurs. Vous avez Mylène Moisan dans Le Soleil qui nous parle de cas d'agression sexuelle où ça s'est terminé par une petite tape sur les doigts. On parle d'une petite fille de 11 ans qui allait pas bien, qui s'est comme désorganisée. C'est un enfant qui est neuro-atypique. Puis pendant une période, je cite Mylène Moisan du Soleil, détresse psychologique au cours duquel il n'y a pas d'infraction criminelle. Puis là, elle a été prise contre son gré sur la rue par des policiers qui l'ont menottée, fouillée, transportée au poste de police. Ils l'ont gardée en cellule de façon illégale. Puis ça, tu le sais que tu peux pas faire ça. C'est la DPJ qui a demandé à la police d'intervenir. Mais comment est-ce qu'une enfant de 11 ans va se retrouver dans un contexte de détention en cellule? Et encore une fois, puis tu sais, on peut écœurer les gens de première ligne, là, mais ils n'ont pas de ressources. Ils se font en enquête. Oui, il y a un pouvoir qui leur est accordé, puis dans certains cas, ça devient un pouvoir abusif. Mais il n'y a pas de contrepoids. La Commission de la protection de la jeunesse ne fait pas sa job. Carrément. On veut créer là une espèce de commissaire. On a créé une DPJ nationale, là on est rendu à un poste de commissaire. Quels sont les pouvoirs que Lionel Carman va donner à cette nouvelle structure? Les enfants ont le droit d'être protégés. Puis ça prend des contrepoids dans un système, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est plus facile de médicamenter un enfant, de l'enfermer, que d'essayer de l'encadrer, puis de l'amener plus loin. Et je dis pas que c'est facile, là. Puis je le sais qu'il manque des ressources, puis dans le budget, Éric Girard va nous dire que oui, j'ai mis de l'argent pour ça, c'est parfait. Mais la réalité actuelle montre qu'il y a quand même des enjeux importants. Puis au total, vous avez 16 signalements par jour au Québec de disparition, ce qui est évidemment énorme. J'en ai parlé au début de l'émission, mais c'est important de le rappeler, je pense. On va aborder ce matin l'histoire d'une petite fille qui est en cinquième année, elle a 10 ans, et elle mange à l'école. Il y a des frais à payer pour le service de garde le midi. Et les parents qui sont séparés n'ont pas payé. C'est un détail, là, c'est la faute de qui, c'est pas ça qui est important. Mais bref, ils n'ont pas payé. Ce qui fait que l'école a décidé, c'est l'école Sainte-Marguerite à Laval, ils ont décidé de dire à la petite, ben tu peux pas manger avec tes amis, tu vas venir manger toute seule là-bas dans le coin. Je comprends que les parents sont furieux. Puis là, je sais que le montant a été payé, puis c'est réglé, là, c'est une mauvaise compréhension, une oubli. Peu importe. Mais est-ce qu'on a à faire payer aux enfants une négligence parentale? Est-ce que tu dis à une petite fille de 10 ans, là, ce midi, c'est quoi, on veut qu'elle mette de la pression sur papa, maman, pour que papa, maman paye? Là, tu peux pas manger avec tes amis. Tu vas aller dans le coin, là-bas, toute seule. Puis quand ton père ou ta mère auront payé, ben là, tu reviendras avec tes amis. Je trouve ça aberrant. Au centre de service scolaire, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas la pratique qui est recommandée, j'espère. Puis on est tous d'accord, là. Vous allez m'écrire, me dire, ben c'est à eux autres de payer. Ben oui, OK. Mais est-ce que l'enfant a à être pénalisé de cette façon-là? Puis c'est pas rien, là, de prendre une petite fille de 10 ans puis de dire, tu t'en vas dans le coin et mange toute seule. Puis tu manges combien de temps toute seule, tant que l'argent n'est pas rentré? C'est bien bizarre. Et ça a l'air que ça se produit plus souvent qu'on pense. En parlant de mesures, ce matin, le Journal de Montréal nous parle d'un bar qui est au 10-30. Et l'établissement s'appelle le 2TD. Et ça brasse pas un peu là-dedans. La police est intervenue 50 fois dans les dernières années pour des cas de bataille puis d'agression sexuelle. Puis ça implique le personnel, puis ça implique la clientèle. Et là, on a suspendu pour 7 jours le permis d'alcool, puis on a imposé une amende de 10 000 $ en raison du paquet de troubles recensés dans l'établissement. Tu dis, il me semble que 7 jours de perte de permis, c'est pas la fin du monde, là, si c'est un établissement où ça va si mal que ça. Et là, l'autre affaire qu'on apprend, c'est que le cinéma Guzzo serait un mauvais payeur et se trouve menacé d'expulsion. C'est le Guzzo qui est situé au marché central. Et il semble que on réclame à M. Guzzo 1,8 million. Puis on veut obtenir le pouvoir de l'expulser. C'est quand même pas rien, là, sortir un cinéma d'un centre comme ça commercial. Alors la société s'est adressée à la Cour supérieure du Québec. Et disons que c'est une relation d'affaires qui s'est complètement désorganisée au fil du temps. M. Guzzo prétend que, au contraire, les montants dus ont été payés. Ils vont même dire que, je parle des gestionnaires de la place, qu'il n'y a pas de compte de banque avec les montants suffisants. Alors, il n'y a pas de preuve, tout ça va se passer devant le tribunal, mais disons que ça va pas très bien pour M. Guzzo, qui prétend, lui, qu'au contraire, les montants en question ont été payés. Aussi, la presse, ce matin, nous parle de la Cour fédérale qui demande de pouvoir enquêter au Québec, forcer donc 3 ex-dirigeants de Pornhub à témoigner dans le cadre d'une requête collective au nom de victimes qui se retrouvent dans sur le site Pornhub avec la pornographie juvénile. Et la compagnie refuse en disant qu'elle n'est pas responsable de ce que les gens publient. Et là, c'est une poursuite quand même intéressante. Le tribunal a été saisi au mois de février d'une requête comme telle parce qu'on veut interroger ces personnes-là, donc permettre à des enquêteurs de venir ici. En Californie, c'est une femme qui est désignée comme étant celle qui intente l'action collective au nom d'un groupe de victimes de trafic sexuel et de pornographie juvénile. Et la poursuite a été déposée, ça fait déjà un bout de temps. C'était à l'époque où MindGeek était établi à Montréal, là. On sait que ça a été repris, ça a été racheté dans les derniers mois. Et là, Pornhub est dans une opération de mise en marché pour prouver qu'ils sont capables de sortir tout ce qu'il y a de matériel pédophile sur le site. Ça reste à voir, parce que je peux vous dire que quand on a fait la série documentaire, il y a des gens qui ont accès à la pornographie juvénile en allant sur des sites de pornographie pour adultes. Ils sont attirés par ça d'abord, puis oups, ça bascule parce que quelqu'un partage un fichier, puis etc., etc. Donc, c'est quand même un dossier assez important. L'enquête du coroner sur la mort de la policière Maureen Brault continue. Et je voyais les résumés des témoignages, donc des policiers, des policières qui sont allés. C'est incroyable de voir comment, quand vous êtes policiers, policières de première ligne, vous n'avez pas accès à l'information essentielle pour savoir à qui vous avez affaire. Et c'est au nom de la protection du secret médical, c'est au nom de la bureaucratie. Je veux juste rappeler que la personne qui s'appelle Isaac Brouillard-Lessard a blessé un patrouilleur, a tué Maureen Bro avant d'être tué à son tour par la police dans son immeuble. Il avait fumé du cannabis, il avait été remis en liberté avec des conditions respectées par la commission d'examen des troubles mentaux, et son père avait alerté les autorités qui s'inquiétaient pour son gars qui allait pas bien. Et on savait qu'il avait un certain nombre d'antécédents, mais l'information est gardée d'un côté par l'appareil médical et l'appareil policier n'est pas au courant. Fait que toi, tu débarques là, tu sais pas trop à qui t'as affaire ou t'as une vague idée. Et la coroner a expliqué hier que c'est certain qu'elle va recommander, disons, une plus grande fluidité d'information pour que la police qui est appelée, qui doit réagir dans une fraction de seconde, sache exactement quels sont les enjeux quand on débarque chez une personne comme ça. Maintenant, le dossier Airbnb. Alors, on a appris hier qu'il y a seulement 19 constats d'infraction qui ont été remis en 8 mois par l'escouade. Ça, c'est le mot utilisé par la Ville de Montréal, là. Tu dis, mais comment ça se fait que seulement 19 constats? Est-ce que l'industrie est à ce point impeccable? C'est quand même assez peu, si on regarde le nombre d'inspections. 394 logements qui ont fait l'objet de ces inspections. Le responsable du dossier, Benoît Doré, de la Ville de Montréal, sera avec nous. Et tout ça découlait évidemment de l'incendie dans le Vieux-Montréal. Je rappelle que ça fait un an là, que ça s'est passé. Et toujours pas de personnes accusées. On sait toujours pas quel était l'état des lieux. Puis on a voulu. Puis là, c'est encore la patente bureaucratique, la juridiction, qu'est-ce qui relève du ministère du Tourisme, la Ville de Montréal. Puis là, on est en train de dire qu'on n'a pas assez de pouvoir. T'sais, je vous parlais tantôt là de l'absence de communication entre le système de santé puis la police. Ben là, entre Québec puis Montréal, ce qui permet à des gens d'opérer des Airbnb un peu tout croche. Rapidement, dans les autres nouvelles, vous dire qu'il y a une entente de principe à TVA qui a été entérinée par plus de 95% des syndiqués, donc conflit de travail qui est évité. Puis il y a une entrevue ce matin de Pierre-Carl Péladeau, c'est assez intéressant, dans le Globe and Mail au sujet de la mort de Brian Mulroney, en disant que, d'abord, il a été un administrateur remarquable par ses contacts, par son influence. Il a été le mentor de Pierre-Carl Péladeau, il était là depuis plus de 20 ans, 23 ans, donc au sein de Québécois, et ce sera pas simple de le remplacer. On doit annoncer le président ou présidente du conseil d'administration quelque part au mois d'avril, mais c'est un témoignage quand même qui met en lumière encore une fois le rôle important qu'a joué M. Mulroney. Évidemment, on l'a dit dans le monde politique, mais aussi dans le monde des affaires, par son réseau de contacts et sa capacité d'influencer. Haïti, ça n'avance pas. Toujours pas de résultats là, pour un gouvernement de transition. Fait que le premier ministre dit « Oui, je vais démissionner, mais dites-moi qui va prendre le pouvoir. » Puis on attend la réponse. On va vous parler de la bataille des Américains contre TikTok également ce matin. Et ça fait pas mal le tour pour l'instant. On va s'arrêter là-dessus.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Ce matin, l'ex-juge Jacques Delisle va plaider coupable. À quoi, on ne le sait pas. On ne connaît pas la nature du chef d'accusation pour lequel il va plaider coupable. On sait que c'est une saga judiciaire qui dure depuis une quinzaine d'années. Il s'est retrouvé en prison, donc, lui, pendant quoi 9-10 ans environ. Tout ça dans le cadre des procédures qui ont été prises contre lui concernant la mort de sa femme, Nicole Rainville, qu'on a retrouvée sans vie atteinte d'un projectile. Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un suicide? C'est le mystère. Le juge de Lille n'a même pas témoigné dans le cadre des procédures contre lui. J'en parle avec deux invités ce matin. Alain Gravel, que vous connaissez bien, journaliste, qui a fait une entrevue à l'époque avec le juge de Lille et qui est animateur de l'émission Les Faits d'abord à Radio-Canada. Alain, bonjour.
Bonjour, Paul.
Et Maître Marc Labelle, avocat criminaliste, est avec nous. Maître Labelle, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, je m'adresse à vous, Maître Labelle. Quelle sorte de chef d'accusation on peut négocier entre la défense et la couronne pour en arriver à un plaidoyer de culpabilité dans un cas comme celui-là?
Ouais, il y a deux, trois chemins qu'on peut prendre dans un cas comme celui-là. Ce qui est le plus conforme à ce qu'on connaît publiquement du dossier, c'est encourager quelqu'un au suicide. L'autre chemin, ça peut être l'homicide involontaire ou la négligence criminelle. Alors ça, c'est les trois voies qu'on peut emprunter quand on veut régler un dossier comme ça.
OK. Lequel chemin est le plus facile d'après vous, puis lequel est le moins contraignant?
Le moins contraignant, c'est encourager quelqu'un au suicide. Parce que le simple encouragement, vous savez, simplement déposer un arme à feu pour aller prendre une marche, là, quand, dans le contexte que l'on connaît, là, évidemment, on ne connaît pas les subtilités du dossier, ça, c'est le chemin le plus simple. Ça constitue un encouragement.
OK, le fait de, c'est important ce que vous dites là, juste le fait de mettre une arme à feu sur une table à café devant une personne qui a des problèmes de santé, qui pense peut-être au suicide, et de quitter, ça représente une incitation?
C'est encouragé.
Ouais.
C'est pas incité.
OK, encouragé.
C'est simple. Le simple encouragement, dans le code criminel, là, le simple encouragement est suffisant. Alors, encouragé, là, si votre conjointe va pas, qu'elle est découragée par sa situation, ça ne va pas dans sa tête, et vous dites déposez l'arme à feu, vous dites m'allez prendre une marche, là, ça peut correspondre à un encouragement.
Un seul événement suffit.
Oui. Pas besoin d'avoir une grande discussion suivie d'une explication du maniement de l'arme. Là. Non, non.
OK.
C'est ça.
Alain, t'as interviewé le juge de Lille à l'époque. Il était à Sainte-Anne-des-Plaines. D'abord, est-ce qu'il a fait la lumière sur ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a vraiment donné une version des faits? Parce qu'on le sait, il n'a pas témoigné dans le cadre des procédures.
Ben, en fait, ce qu'il a dit, c'est la première fois qu'il revenait, c'est la première fois qu'il parlait. Qu'il expliquait un peu comme Maître Labelle le suggérait. Donc, ce qu'il m'a dit lors de l'entrevue que j'avais fait avec lui, donc c'était en 2015, il était en prison à Sainte-Anne-des-Plaines, c'est que il y avait donc sa femme avait des idées suicidaires depuis un certain temps. Ses enfants, d'ailleurs, que j'ai rencontrés par la suite, m'ont corroboré la version du juge de Lille, donc que son épouse avait des idées suicidaires. Ce matin-là, elle était tannée. Ils ont eu, semble-t-il, une dispute autour de sa décision de vouloir partir. Et elle lui a demandé de mettre donc le petit revolver. D'ailleurs, c'est quand même assez intéressant. Un juge de la cour d'appel qui a gardé pendant des années une arme prohibée chez lui, chargée sur la table à café devant elle. Et il est parti pendant une heure. Il y a des images vidéo où on le montre aller acheter des salades. Puis quand il est revenu, donc selon la version qu'il m'a dit, il l'a trouvée morte. Ce qui est assez fascinant dans cette histoire-là, vous parlez donc de ce refus de témoigner, ce qui est assez aussi exceptionnel. Un juge accusé de meurtre au premier degré, qui donc de la cour d'appel en plus, qui normalement devrait avoir un grand jugement, qui refuse de témoigner. Et en plus, le mensonge qu'il a fait par la suite aux policiers, ne voulant pas collaborer avec la police, en disant donc que c'est un suicide point à la ligne, sans rajouter sa participation, selon toujours la version qu'il m'a donnée en prison, donc sa participation indirecte. Donc un juge de la cour d'appel, qui avait une grande réputation, qui manque à ce point de jugement, ce qui fait qu'on est 15 ans plus tard dans une saga incroyable.
Maître Labelle, je comprends que c'est pas vous qui l'avez représenté, mais on se dit, si on en arrive à une conclusion aujourd'hui, où c'est d'avoir encouragé quelqu'un à se suicider, pourquoi est-ce qu'il n'a pas témoigné, pourquoi est-ce qu'il n'a pas plaidé cet argumentaire-là devant le juge?
Ah, ça, c'est incompréhensible. C'est sûr que lui, là, le juge, il était à la cour d'appel, moi je plaidais souvent devant lui. il était du genre à nous rappeler, à ne pas se gêner pour nous rappeler que notre client n'était pas venu proclamer son innocence. Alors, c'est incompréhensible qu'il n'ait pas donné sa version. Mais là, ça devient une question, c'est parce qu'on n'est pas dans la salle d'audience. Alors, la crédibilité des témoins, ce que les jurys ont vu, tout ça, lui, il a fait le calcul qu'il n'avait pas besoin de venir s'expliquer que la poursuite s'était pas déchargée de son fardeau. Mais c'est sûr que la cour, quand on va à la cour d'appel, nous, les avocats de défense, on le sait que si notre client n'a pas témoigné, il y a un petit peu plus de travail à faire. Et lui, il savait ça. Alors, j'ai jamais compris, moi, comment ça fait qu'il n'a pas témoigné.
Yves Boivin.
Rajouter là-dessus.
Oui, vas-y, Alain.
Rajouter là-dessus, Paul, que donc le juge de Lille, ce qu'il m'a raconté lors de ma rencontre, c'est qu'il avait décidé de ne pas témoigner à la toute dernière minute à la suite de représentations et de pressions que sa belle-fille lui avait fait, à savoir que si tu peux nous épargner ça, nos enfants se font écœurer à l'école, c'est très difficile pour nous. Et encore là, c'est la version du juge de Lille, on n'est pas obligé de la croire. Ce qu'il nous a dit, c'est qu'à la toute dernière minute, il a décidé de ne pas témoigner. Maître La Rochelle, qui le représentait, aussi nous a répété la même chose.
Oui, mais quand même, là, je comprends l'impact sur la famille, mais quand c'est 25 ans de prison qui t'attend au bout, là.
C'est ce que je vous dis. C'est moi, ce qui me fascine dans cette histoire-là, c'est que ce grand juge, donc, de la cour d'appel, ça démontre, hein, qu'on soit juge ou pas, on peut manquer de jugement des fois.
Maître Labelle, est-ce qu'on peut dire que, compte tenu du temps passé en prison, il a fait le calcul en disant « OK, là, je vais plaider coupable et finalement, je suis rendu à 88 ans, je m'en vais chez moi finir ma vie. »
Ça, c'est clairement un dossier qui était à régler, là, de part et d'autre. La poursuite avait des problèmes avec certains experts, là, un pan de sa preuve. Lui, il avait déjà été déclaré coupable. Il n'y a pas un accusé qui va refuser de régler son dossier, puis il n'y a pas un procureur de la poursuite qui ne cherchera pas à régler le dossier. Là. C'est une affaire à amener en facilitation à 100 000 à l'heure, et ça a abouti, c'est pas surprenant.
Fait qu'au terme de son plaidoyer de culpabilité, ça veut dire que quoi? Il va sortir, puis il va retourner chez lui, le temps en prison est réglé, là?
Ben, je pense que oui. C'est facile d'essayer de faire toutes sortes de spéculations, là. Mais je pense que quand on veut régler un dossier comme ça, on commence par s'entendre sur des principes. Principe numéro un, pour la défense, c'est mon client ne retourne pas en détention. Principe numéro un pour le poursuivant, c'est il va plaider coupable à quelque chose. Alors, ça, une fois qu'on s'entend sur ces deux principes-là, trouver le chemin, c'est pas un problème. Là. Ça peut être une sentence dans la communauté. Là. Il peut avoir un peu de temps purgé à la maison. Ça peut être le temps fait. Ça peut être. Bon, il y a mille façons de régler ce dossier sans que le juge de Lille retourne en détention après avoir fait 9 ans. Là, ça va.
Mais ça a été une saga, Alain, incroyable. Là. Tu le disais, là, 15 ans de procédure. Le ministre fédéral de la Justice s'en est même mêlé. Tu dis, mais pendant toute cette période-là, il n'y avait pas moyen de comme on dit, de trouver une porte de sortie?
Ben, à partir du moment où il a menti, c'est là où il s'est engouffré là, dans une situation là, sans issue. Moi, ça m'amène à beaucoup réfléchir sur notre système de justice. Tu Tremblay de l'Est de Montréal, là, qui n'a pas les sous pour se payer, parce que Maître La Rochelle, ça ne doit pas être donné. Maître Lockyer, James Lockyer, donc, qui est un grand avocat de Toronto, qui s'occupe des gens donc injustement condamnés, c'est pas donné non plus. Les expertises qu'ils ont fait faire, ça coûte extrêmement cher. D'une part, l'argent, et d'autre part, donc, t'es juge de la cour d'appel, t'as des connaissances, t'as un réseau, tu sais comment les choses fonctionnent, il faut le faire, là. Cour supérieure dans un premier temps, cour d'appel confirmée par la Cour suprême, donc le ministre de la Justice du Canada qui décide d'ordonner un nouveau procès, retour à la Cour supérieure une deuxième fois, retour à la Cour d'appel une deuxième fois, et retour, théoriquement, ça devait être ce matin, à la Cour suprême une troisième fois. Cette séance de facilitation aussi entre les parties, et c'est extraordinaire, devant le juge à la retraite Gagnon, qui a été le premier juge du premier procès.
C'est incroyable, là, cette histoire-là. Mais, comme je vous dis, moi, ça me fait poser beaucoup de questions sur notre système de justice. Est-ce qu'on a tous accès à... En fait, théoriquement, on a accès à la justice, mais dans la pratique, il n'y a pas grand monde qui peut se payer ça. Il n'y a pas grand monde qui a les connaissances aussi pour savoir, connaître, justement, comme M. Labelle nous le raconte, le chemin vers la liberté.
M. Labelle, je veux vous entendre là-dessus.
Ben, moi, je trouve que je suis pas d'accord avec l'évaluation de M. Gravel, là. Le fait qu'il soit juge, là, quant à moi, c'est pire pour l'avocat de défense. Parce que tous les tribunaux, tous les paliers où tu vas passer ne voudront pas avoir l'air de le favoriser parce que c'est quelqu'un qui a œuvré au sein du système. Et qu'il y ait de la facilitation par le juge qui a entendu le premier procès, c'est parfait. Je veux dire, il connaît tous les détails. Il n'y a personne qui peut en passer une au niveau des factuels parce que le juge qui fait la facilitation a entendu la cause. C'est parfait. Bon, au niveau des moyens de quelqu'un, c'est sûr qu'il y a des avantages à avoir une fortune. C'est ça, on a plus de moyens, c'est certain. Par ailleurs, les gens démunis ne sont pas dans une situation où ils peuvent pas avoir accès à des experts. Là, je veux dire, il y a un réseau et l'aide juridique couvre ces choses-là. C'est sûr que c'est quelqu'un qui est plus riche, ben c'est évidemment plus accès à des experts européens là, sur l'aide juridique. Pas mal sûr que c'est pas ça.
Maître Labelle, oui,
Alain. Une grande partie de la cause reposait là-dessus. Je veux pas embarquer dans une polémique autour de ça, mais ça coûte. Tu sais, se payer des experts, Maître La Rochelle, c'est un avocat qui a une très très grande réputation. Comme je dis, c'est pas donné non plus. Ça veut pas dire que les choses ont été mal faites, mais dans le processus. Enfin, moi, comme journaliste et comme citoyen, ça m'amène à une certaine réflexion sur notre système de justice. Je ne veux pas faire de parallèle grossier, mais quand on voit aussi ce qui se passe aux États-Unis, un ancien président qui réussit à faire durer le plaisir pendant des mois et des mois et des mois à coup de requête, ça coûte des sous tout ça, là.
Maître Labelle, je veux vous entendre, vous avez dit « j'ai plaidé devant lui ». Yves Boisvert nous parle d'un homme orgueilleux, que l'orgueil... Il a dû piler sur son orgueil pour en arriver à ce règlement aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Vous avez plaidé devant un juge orgueilleux.
Ouais. Oui. Oui. Oui, oui. Il était pas commode. Elle va pas faire une faute de français en t'exprimant devant ce juge-là. Parce que tu vas te faire ramasser. Il était, pour les jeunes avocats qui s'adressaient à la cour d'appel, là, ils pouvaient terroriser assez facilement. Et c'est, comme je vous dis, il y avait une espèce de petit sourire narquois là, quand il disait, mais Maître Labelle, je constate au dossier que votre client n'est pas venu proclamer son innocence. Je vais vous dire, ça, il fallait prendre un pas de recul et s'expliquer clairement.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Mais deux secondes, Paul. Oui. Lui aussi en faisait des fautes de français pendant mon entrevue à deux reprises. Il parlait de naïveté et non pas de naïveté.
Merci.
Bon, ben, je vais aller regarder tout de suite.
Oui, allez visionner. Alain Gravel de Radio-Canada et Maître Marc Labelle, avocat criminaliste.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix, qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
On va d'abord regarder le bilan des accidents rendus publics ce matin par la Sûreté du Québec. C'est donc le bilan annuel en matière de sécurité. Il y a une légère amélioration. J'en parle avec le capitaine Francis Bernardin, qui est le responsable de ce volet de la sécurité routière et récréotouristique à la Sûreté du Québec. Monsieur Bernardin, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcan.
C'est un peu mieux comme résultat. Une mort, ça demeure une mort, là, mais ça s'est amélioré légèrement.
Effectivement, par rapport à 2022, on parle d'une diminution de 10 % du nombre de collisions mortelles qui sont survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec.
Si je regarde sur un horizon plus long, là, 5 ans par exemple, est-ce que c'est stable, est-ce que ça augmente, ça baisse? Qu'est-ce qu'on peut dire?
On s'est avantageusement rapproché, donc on est pratiquement sur la moyenne des 5 dernières années. Donc à 240 collisions mortelles sur le territoire, c'était à 239 la moyenne des 5 dernières années.
OK. Comment on explique ça? Pourquoi ça semble vouloir se stabiliser?
Clairement multifactoriel, Monsieur Arcan. Notamment en raison du fait qu'en décembre dernier, conditions particulièrement clémentes au niveau climatique. Donc, ça a eu un impact clair au niveau du bilan routier. Faut également garder à l'esprit que notre stratégie en sécurité des réseaux de transport est établie depuis 2021. Donc, je pense que les efforts de partenariat et de sensibilisation commencent à porter fruit. Et également, on a bonifié nos outils diagnostiques de façon à mieux outiller nos unités à l'échelle provinciale pour qu'ils puissent intervenir au bon endroit, au bon moment, sur les bonnes causes.
OK, là, donnez-moi ça plus clairement. Là. Qu'est-ce que vous voulez dire par des outils stratégiques?
Les outils diagnostiques, c'est-à-dire qu'on indique à nos unités, à notre personnel, à quel endroit les collisions mortelles ou avec blessés graves sont susceptibles de survenir. Et à ce moment-là, on leur indique les plages horaires particulièrement sensibles ou critiques et en fonction des causes, soit la vitesse excessive, conduite imprudente ou capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue ou la distraction, soit nos trois principales causes de collision.
Bon, je me souviens d'une époque où les voitures étaient des tombeaux roulants, c'est-à-dire que tu avais un accident, tu n'avais pas grand-chance de t'en sortir. Avec des véhicules peut-être qui protègent mieux, avec les progrès de la médecine, est-ce qu'on se retrouve avec moins de décès, mais plus de blessés graves?
Je vous dirais que votre hypothèse est quand même assez intéressante, mais ce qu'on doit garder à l'esprit, malgré les mesures de sécurité qui sont plus intéressantes, le volet distraction dans les nouveaux véhicules est en hausse. Donc, il y a un effet pervers par rapport au volet technologique. Véhicules davantage sécuritaires, mais les conducteurs sont plus susceptibles d'être distraits au volant avec les différents outils technologiques.
Les jeunes au volant, ça se présente comment comme bilan?
Ben, je vous dirais que la principale tranche d'âge qui est surreprésentée au niveau collision mortelle, au niveau blessé grave également, on parle de la tranche d'âge de 45 à 64 ans.
Avant, c'était les plus jeunes.
Effectivement. Donc là, on parle à concurrence de plus ou moins 30 %. C'est la tranche, une des tranches majoritaires. Et on parle d'une surreprésentation au niveau des hommes.
Pourquoi? Est-ce qu'on a une explication?
Je peux pas vous. Malheureusement, c'est un constat qui revient année après année. Et pourquoi les hommes sont plus susceptibles d'adopter des comportements qui sont plus téméraires? Votre hypothèse est aussi bonne que la mienne.
OK. On dit que depuis la pandémie, il y a un niveau d'agressivité au volant qui n'était pas aussi présent qu'avant la pandémie. Que les gens sont impatients, conduisent dangereusement, coupent des cadrages au volant. On en a vu encore la semaine dernière ici à Montréal. Est-ce que vous observez ces changements de comportement, ce niveau d'agressivité des conducteurs?
Tout à fait. Et on le voit également dans le comportement des conducteurs suite à l'interception. Donc, le dialogue avec les conducteurs ne se déroule pas de la même façon qu'auparavant. Donc, on dénote effectivement un certain niveau d'agressivité qui est légèrement supérieur lors des interactions avec les citoyens.
Vous avez parlé de distraction. Il y a un autre phénomène qui est assez étonnant pour la plupart des gens, là. C'est le nombre de personnes qui ne portent pas la ceinture de sécurité dans la voiture. Et ça représente des cas d'accidents mortels où, par exemple, le passager ou le conducteur sont éjectés du véhicule. Pourquoi ça paraît complètement fou de se dire... on a tous le réflexe de s'attacher. Comment ça se fait qu'il y en a qui ne s'attachent pas?
Bien, je vous dirais que par rapport au non-port de la ceinture de sécurité, il y a une précision qui est importante. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, dans le quotidien, le port de la ceinture de sécurité, c'est un comportement qui est maintenant ancré dans les mœurs et coutumes. Donc, c'est pas complètement acquis, mais on a un excellent taux de respect par rapport au port de la ceinture de sécurité. Par contre... vous le mentionnez, au niveau des personnes qui sont décédées lors de collisions mortelles, le non-port a été observé dans 20 % des cas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne n'est pas nécessairement exclusivement décédée à cause qu'elle ne portait pas la ceinture.
Non.
Souvent, c'est parce que c'est un facteur contributif. La personne est en capacité de conduire affaiblie ou avait une conduite imprudente. Donc, c'est une accumulation de facteurs qui peuvent mener à une collision est dû au fait que la personne ne portait pas la ceinture de sécurité, soit que les lésions sont aggravées ou soit que ça l'occasionne la mort.
Mais c'est incroyable pareil, que des gens volontairement décident de ne pas s'attacher, là, c'est pas juste une distraction. C'est...
Effectivement.
Il y a un auditeur qui m'a écrit qui ne s'attache pas. Puis il me dit dans son courriel, il dit, je me suis fait arrêter parce que je portais pas la ceinture de sécurité, mais le policier qui m'a arrêté avait pas de ceinture, il portait pas lui non plus sa ceinture de sécurité. Il dit, pourquoi les policiers portent pas de leur ceinture de sécurité?
Ben, je vous dirais que nous, ce qui est prôné au niveau de la Sûreté du Québec et au niveau de l'ensemble des corps policiers, c'est de porter la ceinture de sécurité. Par contre, la perception du citoyen, c'est peut-être au moment où le policier procède à l'interception, à ce moment-là, lorsqu'on est à très, très basse vitesse, on est sur le point d'immobiliser le véhicule patrouille pour des raisons de sécurité puis d'intervention. Ça se peut qu'on procède à déboucler la ceinture de sécurité plus rapidement. Et la perception du citoyen, ça peut être que le policier ne portait jamais la ceinture de sécurité. C'est peut-être ça, mauvaise perception.
OK. En parlant de perception, il y a beaucoup de gens qui disent, on peut prendre exemple l'autoroute 20 vers Québec là, ou vers Montréal, rouler à haute vitesse et on croise rarement un véhicule de la Sûreté du Québec. Est-ce qu'il y a près des chantiers de construction? Un peu plus maintenant, mais il y a cette image-là de la police absente qui est pas tellement dissuasive.
Cette perception-là nous préoccupe, mais moi, ce que je peux vous confirmer, c'est que les interventions terrain, notamment au niveau de nos deux grands centres de services autoroutiers, au niveau de Montréal et de Québec, on est excessivement présent en raison du flot de circulation. Et il y a également des opérations qui ont lieu entre Montréal et Québec. Donc, est-ce que la perception est véritablement fondée? Est-ce que les policiers sont...
Vous êtes là.
Nous sommes présents, M. Arcand.
Est-ce qu'on vous voit assez?
Honnêtement, je pense que un des facteurs principaux de la sensibilisation, c'est l'aspect visibilité. Et lorsqu'on intervient, on n'a pas uniquement un impact sur le conducteur qu'on intercepte, on a également un impact sensibilisation sur l'ensemble des conducteurs qui circulent à proximité.
Oui, je comprends, mais est-ce que vous ne devriez pas être plus visible?
Bien, je vous dirais que le facteur visibilité va également en fonction des ressources policières et du déploiement des ressources. Et si on avait accès à davantage de ressources, moi, je vous dirais que si on est en mesure d'avoir plus de ressources dédiées au niveau de la sécurité routière, mais il faut comprendre que le mandat policier s'est excessivement complexifié au cours des dernières années. Quand on parle de violence armée, quand on parle de problématiques de santé mentale, donc c'est possiblement des pistes de solutions qui viennent possiblement expliquer le fait que le temps consacré par le policier patrouilleur moyen en matière de sécurité routière peut, à l'occasion, diminuer.
OK. Deux questions de mes auditeurs. La présence de radars photo, est-ce que ça fait une différence ou c'est plus une trappe à tickets qu'autre chose?
Clairement, pour avoir parlé au chef de service du contrôle automatisé de la circulation, sur les sites dédiés où il y a des photoradars fixes, des appareils fixes, le bilan a nettement progressé à ces endroits spécifiques-là. Progresser dans le bon sens du terme. Et je vous dirais que souvent, les appareils vont être déployés dans des endroits, notamment dans les chantiers de construction, à des endroits où l'infrastructure ne permet pas de procéder à des opérations de type conventionnel. Le contrôle policier conventionnel n'est pas possible pour des raisons de sécurité du citoyen et du policier. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut bonifier le volet contrôle conventionnel policier avec des appareils de contrôle automatisé de la circulation.
OK. L'autre question, ça vient d'auditeurs qui, roulent puis font des observations. Est-ce que la police intervient pour autre chose que de la vitesse? Exemple, des gens qui zigzaguent, des gens qui collent de trop près, des gens qui ont un comportement agressif au volant. Est-ce que vous les ramassez ou si vous faites que des cas de vitesse?
C'est clair que la vitesse excessive et la conduite imprudente demeurent notre cause principale de collision. Donc, c'est sûr qu'on intervient principalement sur ce facteur-là, sans négliger les autres causes de collision et les autres facteurs qui viennent nuire au partage de la route et au volet courtoisie. Vous parlez de suivre de trop près. Le fait de suivre de trop près, c'est une cause de collision majeure dans le sens que la personne n'a pas le temps de réaction nécessaire. Ouais. Donc, c'est vraiment un volet sur lequel on s'efforce également de travailler.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, le capitaine Francis Bernardin de la Sûreté du Québec. On a appris hier que l'escouade d'inspecteurs qu'on a créée il y a un an maintenant après l'incendie, le terrible incendie dans le Vieux-Montréal, pour aller voir comment sont gérés les espaces de location court terme, les fameux Airbnb. Il y en a qui sont légalement inscrits, d'autres qui sont illégaux. Ben, qu'au total, on a remis 19 constats d'infraction, ce qui paraît peu. Avec nous, le responsable de ce dossier, Benoît Doret. Monsieur Doret, bonjour.
Bonjour.
19, c'est pas beaucoup, là, pour 350 quelques visites.
Non, c'est effectivement pas beaucoup, mais je voudrais juste pour être certain, l'escouade Airbnb, hein, comme on l'appelle, a été annoncée le 15 décembre 2022. Donc vraiment 3 mois quand même avant l'incendie du Vieux-Montréal et on a affiché le poste le 15 décembre 2022. Mais effectivement, par la suite, l'escouade en tant que telle là, a commencé, elle, à être effective effectivement après l'incendie. À votre question qui dit c'est peu, effectivement c'est peu.
C'est parce qu'on a deux réflexes, on se dit ils sont parfaits, tout est beau, tout est correct ou
non,
on regarde
non,
pas
non.
À bonne place?
Non, on aimerait ça que ce soit juste tout est parfait ou je sais pas trop quoi. Non, malheureusement, dans le fond, là, pour émettre un constat, il faut que la preuve soit faite hors de tout doute raisonnable. Alors, c'est vraiment ça qui est écrit. Hors de tout doute raisonnable. Ça veut donc dire que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves. On peut pas juste se dire, ah, ici, il y a un Airbnb, puis là, nos inspecteurs font un constat d'infraction, puis les procureurs vont les plaider en cours. Il nous faut vraiment la preuve exacte. Matcher les bonnes photos, hein, qui sont affichées sur les sites de type Airbnb avec le bon bâtiment. Il n'y a pas d'adresse. Est-ce que c'est le propriétaire qui a décidé de mettre du Airbnb? Est-ce que c'est un locataire? Est-ce que c'est même un sous-locataire? On a vu des cas là, dans lesquels, vraiment à l'insu du propriétaire, le locataire a fait signer différents autres baux à du monde dans la bâtisse puis a décidé de tout louer sur Airbnb, la bâtisse au complet du propriétaire sans qu'il sache.
OK.
Alors, c'est compliqué, mais on y arrive. Et en ce moment, avec nos procureurs qui travaillent avec nécessairement d'autres procureurs de grandes villes, avec également les gens de Revenu Québec, on a été capable maintenant de passer d'un type de constat à un autre. Et c'est pour ça là que on a augmenté ça à 42. Hein. Il y en a 23 autres là qui vont être signifiés dans les heures et les jours qui s'en viennent, puis on va accélérer la cadence.
Ils sont où ces Airbnb illégaux?
Ben majoritairement, ils sont dans les 3 arrondissements où on a formé l'escouade, soit le Plateau Mont-Royal, Ville-Marie et le Sud-Ouest. Hein, vraiment, le quartier très, très centraux. Puis après ça, ben par circoncentrique, là, ça s'en va un peu vers Mercier-Chagas-Maisonneuve, Courte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Rosemont, la Petite-Patrie.
Est-ce que vous regardez strictement l'aspect légal? Donc, est-ce que c'est enregistré correctement? Puis est-ce que, bon, ou si vous regardez l'état des lieux?
Ben en fait, chose à distinguer, nous, on émet les constats d'infraction pour des infractions, dans le fond, à la réglementation municipale. C'est important, là, pour nous, c'est la réglementation municipale, alors que les aspects qui sont légaux, eux doivent être traités par Revenu Québec et
non,
c'est pour ça qu'on les transfère. Mais c'était la distinction dans le fond que je faisais. Nos inspecteurs en Airbnb, c'est pas eux qui ont le mandat effectivement de regarder si le bâtiment en tant que tel y est correct.
Non, mais
ils passent la POC aux inspecteurs municipaux qui eux sont responsables de vérifier si c'est sain, si les fenêtres sont correctes,
bon, ben,
etc.
Si je suis l'inspecteur là, puis je me rends dans un appartement, puis je m'aperçois comme dans le Vieux-Montréal qu'il n'y a pas de fenêtre, qu'il n'y a aucun moyen de sortir. On fait quoi avec ça?
C'est passé aux inspecteurs du cadre bâti. Donc, vraiment, là, ils passent la POC aux autres inspecteurs.
Est-ce qu'on en a trouvé des Airbnb, pas de fenêtres?
À ma connaissance, non. Aucune histoire d'horreur, heureusement.
Il y a combien de dossiers qui ont été transférés pour des raisons de salubrité, disons, aux inspecteurs municipaux?
Je pourrais pas vous dire cette information-là parce que de toute façon, ça se passe entre les inspecteurs d'arrondissement. Donc, dans le fond, ils ouvrent la requête et c'est pas, dans le fond, on passe. Donc, on garde pas de statistiques entre est-ce que je le réfère ou pas. C'est vraiment, j'ai vu telle affaire, on demandé à quelqu'un.
Mais est-ce qu'il y a moyen de savoir, il y a combien de logements avec des problèmes de salubrité, des portes barrées qui ont pas de voie de pour sortir, vous êtes responsable de l'habitation. Mm-hmm. Ont-ils moyen de savoir c'est quoi le portrait du parc de location à Montréal?
C'est très difficile d'avoir le portrait du parc de location. C'est pour ça, dans le fond, qu'on avait annoncé qu'il y aurait un projet, puis on va être à la veille, là, vraiment, de le rendre public, le projet de propriétaire responsable, hein, où vraiment, on va aller faire de la qualification des bâtiments, leur donner une cote, faire en sorte là que on puisse émettre des constats d'infraction en matière de salubrité. Vraiment, toute la panoplie, ça s'en vient. Mais je vous dis,
ce qui m'achale un peu, c'est que il y a le ministère du Tourisme qui vérifie ce volet-là aussi Airbnb. Vous me parlez du ministère du Revenu qui vérifie le côté de la location. Vous, vous envoyez votre escouade voir si ce sont des vrais Airbnb ou pas. Il y a des nids à feu potentiellement là-dedans. Là, tu dis, est-ce que ce sont les services municipaux? Là, le service des incendies avait réduit le nombre de ces visites. On a découvert ça à un moment donné. Ça fait pas beaucoup de monde pour s'occuper de la même affaire.
Oh non, vraiment pas. En ce moment, là, sur la salubrité, on a vraiment, vraiment, vraiment un accroissement des inspections en matière de salubrité.
Oui, on avait ralenti.
Mais je veux faire quand même attention parce que en ce moment, on sait que c'est un incendie criminel par rapport au Vieux-Montréal. Alors, je veux juste faire attention par rapport au Vieux-Montréal. Mais depuis, la chose qui est bonne par rapport au feu, c'est que, je vous dirais, ça a sensibilisé davantage certains acteurs, comme le gouvernement du Québec, comme certains aspects à la Ville de Montréal, sur certains aspects de l'inspecteur.
Okay, mais, M. Dorel,
on s'améliore, dans le fond, ce que je veux dire, M.
Ouais, mais regardez, là, on va pas rendre ça très clairement. Là. Il y a eu ce feu dans le Vieux-Montréal. On sait que c'est de nature criminelle. Je ne sais pas si le bâtiment était conforme ou non aux règles d'habitation. Êtes-vous capable de me dire si c'était conforme ou pas?
Moi, je vais pas me prononcer sur cet aspect-là, parce que vous vous souvenez aussi qu'il y a tout un volet qui relève de la régie du bâtiment du Québec. Mais et c'est ça qui a fait en sorte d'ouvrir les yeux des pouvoirs publics. Dans le fond, il y avait certains vides à certains endroits, donc des pratiques qui dataient quand même de quelques décennies.
C'est parce que je veux bien...
Alors, et c'est ça qui a fait en sorte que à la fois des instances du gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, puis assurément d'autres grandes villes, là, je le sais, là, je travaille avec des partenaires de l'UMQ, c'est ça qui a été, je vous dirais, un déclencheur positif,
non,
malheureusement.
C'est correct, là. Mais il y a eu un feu terrible dans le Vieux-Montréal. On ne sait pas ou on peut pas en parler comment était configurée la place, puis est-ce que c'était sécuritaire, puis est-ce que tous les systèmes de sécurité marchaient. Je le sais pas. On va voir pendant les procédures. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des nids à feu à Montréal, il y a des propriétaires négligents, il y a des endroits où il y a des citoyens qui habitent là-dedans, que ce soit des Airbnb ou des locataires à temps plein.
Tout à fait.
Où c'est extrêmement dangereux. Oui. Moi, quand j'ai appris que le service des incendies avait levé le pied, là, vous me dites, ils en font un peu plus, puis je m'aperçois que c'est Tourisme Montréal, l'habitation, les pompons, tout ce monde-là, là, ça manque de mordant, votre affaire. Ça manque de conviction.
Mais moi, je
c'est
vous
grave,
dirais...
là, c'est des habitations où des gens peuvent perdre la vie à cause d'un feu.
Tout à fait. Mais je vous dirais là que les inspections sont en nombre plus élevé. Ça a fait en sorte qu'il y a une... on est allé, je vous dirais, clarifier des responsabilités entre Québec et la Ville de Montréal, notamment. Et il y a des choses, il y a vraiment une révision là qui est en train de se faire, parce que ça a ouvert les yeux sur certains, je vous dirais, certaines carences.
Ça prenait un incendie avec autant
attention.
De morts dans le Vieux-Montréal.
Ah oh, non, la Ville de Montréal puis d'autres grandes villes font vraiment là sans cesse un travail sur ce qu'on fait, donc une lecture, je vous dirais, très très correcte là, des choses. Mais sur les Airbnb, je peux vous garantir qu'actuellement, oui. L'escouade, même avec 42 constats d'infraction, puis vous allez en voir davantage. Là. C'est pour ça, dans le fond, que moi, je me présente là après une année, dans le fond, là du lancement de la projet pilote en tant que tel. Puis je le dis, là, le bilan, il est pas parfait. On a trouvé certaines affaires où on se dit, raffinons le modèle. On a regardé avec les procureurs, les contentieux d'autres grandes villes. Le travail est fait aussi avec Revenu Québec. Mais il faut un certain mécanisme de partage actuellement entre Québec et Montréal pour s'assurer que le truc actuel, là, okay. C'est la résidence principale, M. Arcan. Des gens disent, c'est chez nous, c'est pas vrai, puis il faut être capable de détecter ces affaires-là.
Merci d'être venu ce matin.
Ben, ça me fait plaisir.
Benoît Dorin, qui est le responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On nous a raconté l'histoire d'une jeune fille de 10 ans, 5e année, l'école Sainte-Marguerite à Laval, où elle dînait avec ses amis à l'école et on lui a demandé de quitter la salle où avait lieu donc le repas parce que ses parents, pour toutes sortes de raisons, avaient pas payé le montant annuel de 2 000 $ pour le service de dîner. Et on a donc dit à la jeune fille d'aller manger seule, ailleurs, loin des autres, loin de ses amis. On comprend qu'il faut payer là, puis qu'il y a des enjeux de répartition des ressources puis tout ça là, mais quand même, est-ce qu'on c'est normal de faire porter un enfant de 10 ans une négligence des parents? Yves-Michel Volsy est avec nous, c'est le directeur général du Centre de services scolaires de Laval. Monsieur Volsy, bonjour.
Monsieur Arcan, bonjour.
Est-ce que c'est normal qu'un enfant porte le fardeau d'une facture non acquittée par les parents?
Non. Mais dans un premier temps, je voulais juste vous dire, j'ai la voix un peu étouffée ce matin, donc je m'excuse.
Il n'y a pas de problème.
D'avance. Je peux vous dire, quand j'ai été quand j'ai pris connaissance de la situation, ça m'a touché. Puis je tiens à dire d'entrée de jeu que je suis désolé que cet élève-là ait vécu cette situation-là. Je suis désolé aussi auprès de la famille qui ont vécu malheureusement cette situation-là. Et c'est la raison pour laquelle, dès ce matin, j'ai envoyé une communication à l'ensemble de mes équipes pour m'assurer que ce genre de situation-là ne se reproduise pas.
OK. Quelle est la démarche à suivre quand il y a des parents qui ne payent pas? C'est quoi? Comment vous procédez avec eux?
OK. Chaque mois, on envoie un état de compte. Le 15 du mois, chaque mois, on envoie un état de compte aux parents. Il peut arriver parfois qu'il y ait des parents qui ont des enjeux financiers. Ça arrive bien malheureusement. Et dans la plupart des cas, on trouve des aménagements, des arrangements avec ces parents-là, des modalités. Ils peuvent payer avec différentes modalités. Par contre, lorsqu'on essaie de rentrer en communication avec les parents puis on n'a pas de réponse, mais à un moment donné, on envoie une communication en disant que à partir de telle date, il se peut que l'élève n'ait plus accès au service. Donc, les écoles sont légitimées de faire ça. Mais dans la façon dont ça s'est produit, je ne crois pas que c'était optimal. Et c'est la raison pour laquelle on a envoyé une consigne pour que ce genre de situation-là ne se reproduise.
Ce qu'on me dit, là, puis on a des versions, des parents sont séparés, un pense que l'autre a payé, puis ça n'a pas été fait, puis ça tombe entre deux chaises, puis bon... Puis là, l'enfant, on lui a dit, ben là, t'es avec tes amis, mais là, il faut que t'ailles prendre ton repas seul ailleurs.
Ouais. Non, c'est pas ce qu'on privilégie. Ce qui est arrivé, c'est que l'élève a été effectivement sorti du local où elle était. Elle a dîné avec une adulte, une TES, et une autre élève. Un autre élève, je crois. Donc, les élèves n'ont pas à faire les frais des enjeux des adultes. Donc, c'est pour ça que ce genre de situation-là, je veux plus que ça se reproduise.
OK. Je vais vous parler d'Eclipse, comme vous êtes un directeur général de centre de services scolaires. À Laval, ouais. Qu'est-ce que vous faites?
À Laval, ce qu'on fait, on prend des décisions qui sont déchirantes.
OK, mais c'est laquelle?
Je vais vous l'expliquer. Nos élèves, avec le transport, on a quand même beaucoup d'élèves. On a 18 000 marchands, 26 000 élèves qui sont transportés, puis les élèves quittent sur une plage de 2h à 4h30. Donc, entre 2h et 4h30, évidemment, les élèves sont dans le transport. Donc, c'était une décision qui était déchirante. Moi, j'avais deux principes qui nous animaient. La sécurité, évidemment, des élèves. Et s'assurer que les élèves aient un service qui ne perdent pas une journée dans le contexte dans lequel ils ont été placés. Donc, on a déplacé une journée pédagogique de fin d'année. On l'a mise cette journée-là. Et il y avait aussi un enjeu au niveau des lunettes. J'étais pas capable de m'assurer que les lunettes étaient conformes. Donc, les vérifications ont été faites et les lunettes vont être distribuées prochainement. Les parents vont pouvoir venir les prendre dans les écoles avec un clé en main, avec un protocole pour s'assurer que les lunettes sont bien portées puis qu'on ne mette pas à mal ou en péril la sécurité oculaire de nos élèves.
Je vois d'autres centres scolaires depuis hier là qui ont changé leur fusil d'épaule ou en tout cas qui ont une autre politique qui est de dire on garde les enfants à l'école, on les accompagne, on leur donne les lunettes, on s'assure là, que ça se passe de façon sécuritaire et on annule le transport scolaire de fin de journée. Donc, c'est aux parents de venir récupérer leurs enfants. Est-ce que c'est pas le rôle de l'école, puis j'ai vu les scientifiques là, qui l'ont dit, là, quand un événement aussi rare que celui-là se produit, que l'école joue un rôle, que des profs puissent avoir, je dirais, le mandat d'accompagner les enfants pendant un événement comme celui-là?
Effectivement, c'est le rôle de l'école. Mais en même temps, comme je vous dis, comme je suis pas convaincu qu'on était capable d'assurer la sécurité, on a pris cette décision-là. Maintenant, il y a des équipes écoles qui vont faire montre de beaucoup d'être inventifs, puis ils vont préparer les élèves avant cet événement-là avec des activités pédagogiques. Lors de la journée, ils vont avoir des sites Internet qui vont être proposés aux élèves. Ça va être récupéré en direct dans des émissions télévisuelles. Et au retour, le lendemain, ça va être aussi réinvesti avec nos élèves. Il y a des centres de services scolaires qui ont peut-être pas les mêmes caractéristiques, les mêmes contraintes qu'on a.
Parce qu'un parent qui vous écoute se dit, mais pourquoi à Laval, ils peuvent pas le faire? Puis Boucherville, les Patriotes sont capables de le faire.
Ouais, ben c'est ça. Chaque centre de service a ses caractéristiques. On a envisagé plusieurs scénarios et malheureusement, celui qu'on a retenu, ben je dis malheureusement.
Vous le regrettez aujourd'hui, là,
c'est pas ce que je dis. C'est que malheureusement, on n'est pas en mesure d'assurer la sécurité comme je vous ai dit. Puis donc, c'est la décision qui a été prise, mais j'ai bon espoir que les élèves avant l'éclipse, puis après l'éclipse, vont pouvoir vivre cet événement-là qui est inusité.
J'ai une question terrible à vous poser.
Allez-y.
Est-ce que ce sont les compagnies d'assurance qui vous ont dit, là, on veut pas de problème à l'école, on va se faire poursuivre par des parents, puis... Ça, c'est comme on sort pas dans le cours d'école parce que c'est glacé, pourrait se casser la gueule. Puis là, c'est la réaction des centres de service, c'est surprotéger pour éviter le trouble en disant on met ça dans le cours des parents. Là.
Non, c'est vraiment pas une décision qui a été prise. On a pris en compte tous ces éléments-là, mais j'assume cette décision-là qui est difficile. Puis je fais l'objet de déception, j'en suis très conscient. Mais c'est une décision que j'assume. Puis je pense que dans le contexte dans lequel on était placé, c'était la décision qu'il fallait prendre.
Merci d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Au revoir. Yves Michel Volti, le directeur général du Centre de services scolaires de Laval.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.